Imaginez un peu la scène, là. Une petite entreprise fabrique un produit vraiment fantastique.
Ouais, le scénario idéal.
Exactement. Le marketing est impeccable, le client est ravi, la vente est conclue. On calcule la marge de profit et tout le monde célèbre.
Jusque-là, tout va bien.
Sauf que là, silencieusement, il y a 20 % de ce profit qui s'évapore dans les airs. L'argent disparaît tout simplement.
Ah, wow! 20 % c'est énorme!
Et c'est pas à cause d'une baisse des ventes ou d'une crise économique, non. C'est juste parce qu'un employé dans l'entrepôt a choisi une boîte en carton légèrement trop grande pour expédier la commande.
Ouais, bienvenue dans les zones d'ombre de la logistique.
C'est fou quand on y pense.
L'expédition, tu sais, c'est une science complexe où la moindre petite friction est pénalisée par des frais.
C'est exactement ce qui nous a poussés à faire cette analyse approfondie aujourd'hui. Notre mission, c'est de braquer les projecteurs sur les opérations d'expédition et des livraisons des PME.
Et c'est tellement nécessaire.
Absolument. On va décortiquer les éléments d'un audit de 15 minutes. Un audit qui est conçu pour colmater ces fuites de capitaux. Parce que, tu sais, l'idée que la hausse des coûts de transport est une fatalité qu'il faut juste subir, ben c'est un mythe.
C'est totalement un mythe. Plus ironique là-dedans, c'est que l'expédition n'est pas qu'une question de gestion interne, c'est vraiment la dernière interaction physique, le point de contact final entre une marque et un consommateur.
C'est l'expérience client au complet qui se joue là.
Exactement. Une livraison sans faille, ça valide toute l'expérience d'achat. Mais à l'inverse, mettons un retard inexpliqué, une boîte endommagée ou pire encore, des frais de douane surprise réclamés à la porte du client.
Ah, ça, c'est le pire.
Ben, ça peut anéantir une réputation bâtie sur plusieurs années en un clin d'œil.
D'accord. Plongeons dans la mécanique de tout ça. Et je veux revenir à mon exemple de la boîte en carton, parce que c'est vraiment là que tout commence.
Oui, l'étape numéro un.
Avant même de parler de camion ou de route, le premier gouffre financier prend forme sur la table d'emballage. Les documents parlent du concept du poids dimensionnel, ou le fameux facteur DIM.
Le fameux DIM, ouais.
Comment est-ce que les transporteurs justifient de faire payer pour de l'espace vide?
Bien, il faut se mettre dans la peau de l'opérateur logistique. Un transporteur ne vend pas seulement une capacité de levage, il vend un volume limité.
L'espace physique dans le camion, dans le fond?
C'est ça. L'espace à l'intérieur d'une remorque de 53 pieds, c'est fini, c'est limité. Si une entreprise expédie, mettons, un oreiller très léger dans une immense boîte, le camion va être plein à craquer visuellement.
Mais il pèsera presque rien.
Exactement. Il n'aura même pas atteint le dixième de sa capacité de poids maximale. Fait que le transporteur perdrait une fortune s'il facturait uniquement selon la balance. Donc, le système pénalise les boîtes surdimensionnées.
Fait que pour illustrer ça, utiliser une grosse boîte rigide pour un petit T-shirt, c'est l'équivalent de louer un autobus scolaire entier simplement pour aller faire son épicerie en solo.
Ah, c'est une excellente analogie.
Le moteur tourne, l'espace est bloqué et quelqu'un doit payer pour les sièges vides. C'est carrément une taxe sur l'air qu'on expédie.
L'analogie est frappante et la solution exige un vrai changement de paradigme matériel. Par exemple, pour des vêtements, des documents ou des petits objets plats, on devrait utiliser des enveloppes matelassées.
Au lieu des boîtes.
Ouais, ou des sacs d'expédition à bulles. Ça modifie instantanément le calcul de la machine de tri du transporteur. On élimine l'air de l'équation.
C'est super logique.
Puis en plus, ces emballages flexibles offrent une bien meilleure résistance à l'humidité ou aux plis.
Mais qu'en est-il de l'intérieur même de la boîte, tu sais, pour les objets fragiles? On a tous déjà reçu ces colis remplis à ras-bord de petites arrachées dans polystyrène ou de 20 mètres de papier bulle.
Ah oui, les classiques.
J'imagine que le poids de ce matériel de remplissage, même s'il semble léger, ben ça finit par s'accumuler.
Bien, la question matérielle va bien au-delà du poids brut, en fait. Le matériel de calage excessif oblige souvent l'utilisation d'une brouette d'une taille supérieure juste pour tout faire entrer.
Ah, je vois, c'est un cercle vicieux.
Exact. Remplacer ces méthodes obsolètes par des insertions en carton sur mesure ou des coussins d'air calibrés, ça permet de réduire la taille globale de l'emballage, le produit est mieux calé et on évite de sauter dans la tranche de tarification supérieure.
D'accord. Et si on change d'échelle pour les plus gros joueurs? On parle beaucoup d'envoi en chargement partiel, ce qu'on appelle le LTL, pour Less Than Truckload.
Oui, le fret partiel.
Concrètement, on expédie des palettes de bois. Les données suggèrent de vérifier méticuleusement l'état physique de ces palettes. Mais je veux t'arrêter tout de suite. Est-ce qu'un chauffeur de chariot élévateur va vraiment se formaliser pour une palette dont un coin est juste un peu abîmé?
Ah ben la réalité est beaucoup moins indulgente qu'un simple regard critique d'un chauffeur.
Vraiment?
Ouais. Une palette endommagée, c'est une véritable bombe à retardement dans un entrepôt transit. Si les planches cèdent sous le poids pendant un virage ou lors d'un transfert, c'est toute la marchandise qui s'effondre.
Ouf, le désastre total!
Et pour éviter ce désastre, les transporteurs vont souvent intercepter la cargaison, la repalettiser de force sur une base solide et envoyer une facture punitive exorbitante à l'expéditeur.
Juste pour le temps et le matériel de l'avoir fait à notre place.
Exactement. Le simple fait de recycler une palette fatiguée pour économiser 10 $, ben ça peut en coûter 500 à l'arrivée.
Wow, OK. Bon, disons qu'on a maîtrisé cette étape. La marchandise est parfaitement emballée, la palette est robuste, on ne paie plus pour de l'air.
Parfait.
Toute cette belle optimisation devient inutile si on confie cette charge au mauvais réseau de distribution. Ce qui nous amène à une habitude très ancrée dans les PME.
La loyauté envers un seul transporteur.
C'est ça. S'allier à un seul grand transporteur national. Mais ça semble logique, non? Avoir un interlocuteur unique, négocier un petit rabais de fidélité, simplifier la vie de son équipe d'entrepôt.
Bien, c'est l'illusion de la simplicité et c'est probablement l'erreur la plus coûteuse qu'une PME puisse faire.
Ah ouais?
Pourquoi?
Le marché du transport n'est pas monolithique. Les transporteurs ont des forces et des faiblesses géographiques et infrastructurelles très marquées.
Ça, ils ne sont pas tous bons partout?
Exact. Un géant de la logistique peut offrir un tarif imbattable pour traverser le continent, mais être horriblement cher pour livrer à 50 km de là dans une zone rurale qu'il dessert mal. Ah, ça a du sens.
S'en remettre à un seul partenaire, c'est se priver volontairement des meilleurs tarifs en temps réel selon la destination spécifique de chaque colis.
Je comprends la logique, mais il faut être réaliste. Comment une petite entreprise de 10 employés qui n'expédie qu'une cinquantaine de commandes par jour, comment elle peut sérieusement rivaliser ou négocier, là?
C'est le grand défi.
Elle n'a ni le temps de magasiner sur 10 sites différents chaque matin, ni le volume de vente nécessaire pour exiger des gros rabais.
C'est précisément pour contourner ce mur que l'écosystème a évolué. La solution réside dans les plateformes de gestion d'expédition.
Comment ça fonctionne, concrètement?
L'idée est simple. Ces plateformes agissent comme des courtiers ou des grossistes. Elles regroupent le volume d'expédition de dizaines de milliers de PME.
OK, la force du nombre.
C'est ça! Avec ce volume colossal, elle négocie des tarifs massifs auprès des plus grands transporteurs, puis elle redonne accès à ces tarifs réduits aux petits expéditeurs. C'est une véritable démocratisation du pouvoir d'achat accessible depuis un seul tableau de bord.
Une sorte de syndicat d'acheteurs d'espaces de fret, en somme.
C'est une belle façon de le voir.
Et cette flexibilité permet aussi d'éviter une autre erreur flagrante, utiliser le mauvais type de service pour le mauvais poids. Je pense notamment à l'utilisation de services de messagerie rapide pour des envois trop lourds.
Ah, une erreur très fréquente!
Où se situe la limite entre envoyer une série de grosses boîtes avec un courrier régulier et faire appel à ce fameux service de fret partiel LTL dont on parlait?
La zone de bascule se situe généralement entre 100 et 10 000 livres, ce qui équivaut en gros à une expédition de 1 à 6 palettes standard.
OK. Donc, dès qu'on touche les 100 livres...
Ouais, continue d'utiliser un service de courrier traditionnel pour ce volume, c'est un non-sens financier. Le LTL, c'est l'économie de partage appliquée au transport lourd.
Comment ça? L'économie de partage?
Ben, au lieu de louer un camion complet qui roulera à moitié vide, l'entreprise ne paie que pour l'empreinte exacte de ses quelques palettes. Et le transporteur consolide le reste de la remorque avec les palettes d'autres entreprises qui vont dans la même direction.
Ah, brillant! D'accord, l'infrastructure physique est en place, la boîte est optimisée, le transporteur le plus concurrentiel est sélectionné pour la bonne route.
Tout est prêt.
Mais il reste une faille monumentale et elle se trouve sur le papier.
Ou plutôt sur l'étiquette collée sur la boîte.
Oh oui, l'étiquette. Oh, peut apparemment déclencher une véritable onde de choc.
C'est le talon d'Achille de toute chaîne logistique. Une logistique moderne repose entièrement sur l'automatisation de la donnée.
Fait que si l'info est mauvaise?
Exact.
Quand un colis arrive dans un centre de tri massif, il défile sur des convoyeurs à des vitesses ahurissantes et des scanners lisent l'étiquette. Si une information est manquante, mettons un numéro de suite pour un immeuble à bureau, le colis est éjecté du flux automatisé. Il tombe dans les limbes des exceptions.
Ce qui nécessite l'intervention d'un être humain pour résoudre l'énigme. Et ça, j'imagine que ça coûte cher.
Exactement. Le transporteur va facturer des frais administratifs de correction d'adresse, en plus de pénaliser le client final avec un retard de livraison important.
C'est frustrant pour tout le monde. Mais là où la paperasse devient vraiment punitive, c'est avec le fret lourd LTL et les classes de fret.
Les classes de fret.
Oui. La classification est basée sur la densité, la facilité de manutention, la valeur et la responsabilité.
Et si on se trompe de classe? Admettons que j'estime mal la densité de ma marchandise et que j'inscris un poids inexact de quelques kilos. Est-ce que le transporteur va simplement ajuster la facture de quelques dollars ou est-ce plus dramatique?
La réaction est souvent très brutale, avec des frais de repesage ou de reclassification qui s'ajoutent à un nouveau tarif punitif.
Sévère.
Oui. Il faut comprendre pourquoi ils sont si stricts. Le modèle d'affaires d'un transporteur de fret est basé sur des algorithmes de prévision de charge ultra précis. Ils planifient le poids total sur les essieux des camions pour respecter les lois routières.
Ah, c'est une question de légalité aussi.
Et ils calculent l'espace au centimètre près. Quand un expéditeur fournit de fausses mesures, même par erreur, ça désorganise la logistique de toute une flotte. Ces frais salés existent vraiment pour dissuader toute négligence de la part des expéditeurs.
C'est l'effet papillon, en fait. Une erreur de ruban à mesurer dans un entrepôt de banlieue bloque un camion à l'autre bout du pays.
C'est exactement ça.
Et ce chaos s'amplifie exponentiellement quand la cargaison doit traverser une frontière internationale.
Oh, sans aucun doute, les retenues aux douanes ne sont presque jamais causées par des agents zélés qui fouillent arbitrairement les boîtes.
Ah non, non.
Non, dans l'écrasante majorité des cas, c'est simplement une facture commerciale incomplète.
Genre quoi comme erreur?
Il manque le code tarifaire harmonisé, le pays d'origine de la marchandise n'est pas spécifié ou bien la description du produit est trop vague. La douane devine pas, elle bloque l'envoi jusqu'à ce que la paperasse soit conforme.
Alors la question devient évidente. Comment on fait pour se protéger contre nos propres erreurs humaines? Taper des adresses à longueur de journée, c'est s'exposer inévitablement à la faute de frappe.
C'est humain, oui.
Pour éliminer cette friction, on doit inévitablement parler d'automatisation technologique.
L'intégration des systèmes, c'est vraiment la seule véritable ligne de défense. L'époque où une personne tapait manuellement les coordonnées d'un client dans le portail d'un transporteur doit être révolue.
Fini ce temps-là.
D'autres.
Donc, pas de double saisie.
Exact. L'adresse entrée par le client final au moment de son achat est directement poussée vers l'étiquette d'expédition avec une validation automatique en temps réel.
Fait que faire autrement aujourd'hui, se connecter à 5 sites web de transporteurs différents pour comparer les prix manuellement, puis copier-coller des données, c'est comme avoir 5 standardistes dans une entreprise qui ne se parlent jamais.
Oui.
Et qui utilisent des machines à écrire en plus. C'est complètement archaïque. D'ailleurs, en parlant de technologie, il y a un acronyme qui revient sans cesse quand on aborde le service à la clientèle lié à l'expédition. L'acronyme WISMO.
Ah oui, WISMO, de l'anglais « Where is my order », qu'on pourrait traduire par le syndrome du « Où est ma commande ».
C'est le fléau absolu des centres d'appel et des boîtes de réception des PME.
La bête noire du commerce en ligne, vraiment.
Mais pourquoi ce simple courriel est-il si dommageable? Tu sais, les clients ont le droit de s'informer de l'état de leur achat.
Ils en ont tout à fait le droit, c'est sûr. Mais chaque réponse nécessite qu'un employé arrête ce qu'il fait, ouvre un système, cherche un numéro de suivi, aille sur le site du transporteur et rédige une réponse.
C'est pas du temps.
La charge mentale et le coût horaire lié à la gestion de ces requêtes OMI ou WISMO sont astronomiques pour une petite équipe. C'est pourquoi un tableau de bord de suivi centralisé, ben c'est pas un gadget de luxe.
C'est d'une nécessité.
Le système doit envoyer des courriels de confirmation et des mises à jour de statut de livraison de façon entièrement automatisée. Les clients exigent cette visibilité en temps réel. En satisfaisant cette exigence de manière proactive, on libère le département du service à la clientèle pour qu'il puisse gérer les véritables urgences.
Le plus déroutant quand on regarde l'offre technologique actuelle, c'est le modèle d'affaires de ces outils. Il existe des plateformes offrant toute cette automatisation, la synchronisation avec la boutique en ligne et la comparaison de tarifs.
Oui.
Sans exiger un seul dollar en frais mensuels, d'abonnement ou de coûts de configuration initiale. C'est dur à croire.
Ben c'est un changement de paradigme majeur. Plutôt que de vendre un logiciel en tant que service, ces entreprises génèrent leurs revenus sur le volume global des transactions avec les transporteurs.
Ah, intelligent.
Pour la PME, ça élimine complètement la barrière à l'entrée. Il n'y a plus aucune excuse financière pour continuer à utiliser des processus logistiques manuels désuets.
L'entreprise est donc optimisée de l'intérieur. La machine est bien huilée, mais elle ne fonctionne pas en vase clos, on s'entend.
Non, l'externe joue un grand rôle.
Elle doit affronter l'extérieur, l'environnement, les règles changeantes, la conjoncture économique. La logistique, c'est un peu comme naviguer en haute mer. Et les freins invisibles sont les récifs.
Belle image. Et la tarification des transporteurs, c'est un écosystème vivant qui réagit à la demande globale et aux conditions macroéconomiques. Les suppléments fluctuent.
Surtout pendant la haute saison, j'imagine.
Le meilleur exemple, c'est ça, la haute saison, le fameux « peak season », qui commence généralement à l'automne, à l'approche des fêtes. Les réseaux sont saturés, donc les transporteurs imposent des frais supplémentaires sur chaque colis, simplement pour gérer la surchauffe opérationnelle.
Et il y a le prix du gaz aussi?
Oui, les suppléments liés au coût du carburant, qui sont ajustés constamment.
Et ce ne sont pas seulement les périodes de l'année qui posent problème, c'est la forme même de ce qu'on envoie. Dans l'audit, il y a une ligne concernant les frais pour manutention spéciale. Qu'est-ce qui déclenche ça au juste?
Le cauchemar d'un centre de tri automatisé, c'est un objet de forme irrégulière.
Genre un tube?
Ouais, un long cylindre, un colis qui n'est pas emballé dans une boîte en carton ou un objet cylindrique qui risque de rouler hors d'un convoyeur. Les robots ne peuvent pas gérer l'irrégularité.
Fait que quelqu'un doit le prendre à la main?
Exactement. Ces objets nécessitent qu'un humain les soulève et les déplace manuellement à travers les différentes étapes de l'entrepôt. Ce travail manuel ralentit le flux et le transporteur le facture au prix fort sous la forme d'un supplément pour manutention spéciale ou de risque élevé.
Oui, ça pardonne pas. Il y a une autre distinction tarifaire très importante qui échappe souvent à la vigilance lors de la création d'une étiquette. C'est le fameux dernier kilomètre, la livraison finale.
Ah, la différence entre résidentiel et commercial.
Exact. Il faut différencier de manière chirurgicale une adresse résidentielle d'une adresse commerciale, parce que les transporteurs punissent financièrement les livraisons à domicile. Je trouve ça fascinant. Pourquoi c'est plus cher de livrer un colis à ma maison qu'au petit commerce du coin de ma rue?
Bien, tout est une question de densité d'arrêt et d'efficacité temporelle. Imaginez un livreur qui s'arrête à un quai de chargement commercial.
OK.
En 10 minutes, il peut décharger 50 colis pour 50 destinataires différents travaillant dans la même tour de bureau. Le rendement est énorme.
C'est super efficace.
Maintenant, prenez ce même livreur dans un quartier résidentiel en banlieue. Il doit manœuvrer un gros camion dans des cul-de-sac étroits, marcher jusqu'à chaque porte d'entrée, parfois affronter des chiens de garde.
Laisser un avis de passage si la personne n'est pas là.
Exact. Et tout ça pour livrer une seule paire de chaussures. Le coût en carburant et en temps par colis livré explose. Voilà pourquoi le supplément résidentiel existe.
C'est imparable sur le plan mathématique. Quand on réalise ça, on comprend qu'oublier de cocher la petite case « adresse résidentielle » au moment de la soumission de départ fausse complètement les prévisions budgétaires.
Ça fait toute la différence.
C'est transformer une vente profitable en perte nette à cause d'une erreur d'inattention. C'est fou.
Et c'est pour toutes ces raisons que la vraie force d'une chaîne logistique ne réside pas dans sa capacité à éteindre des incendies, mais dans sa capacité d'anticipation. C'est ce qu'on appelle la résilience logistique.
Prévoir les coûts à l'avance?
Prévoir les poussées printanières de volume. Anticiper les embouteillages des fêtes en ayant déjà diversifié ses partenaires de transport des mois à l'avance. Il faut surveiller la météo des suppléments pour ajuster ses propres marges et ses politiques de livraison gratuite en conséquence.
Si on prend un peu de recul pour synthétiser ce qu'on vient d'explorer, la profondeur, cet audit de 15 minutes, donne le vertige de la meilleure des manières.
C'est très révélateur.
Ajuster la dimension physique d'une boîte ou d'une enveloppe pour arrêter de payer l'expédition d'air. Consolider le volume d'envoi via des plateformes agissant comme des courtiers pour briser le mythe du transporteur unique.
Obtenir des tarifs de gros, oui!
L'importance vitale d'une automatisation technologique sans faille pour empêcher les erreurs humaines de bloquer les frontières et générer des requêtes massives aux services clients. Jusqu'à la gestion chirurgicale des suppléments de carburant, de haute saison et de zones résidentielles.
Bien, c'est une restructuration profonde. On passe d'un centre de coûts passif et opaque à un avantage concurrentiel agile et maîtrisé.
C'est le but visé.
Ce niveau de contrôle permet à une PME de rivaliser avec les géants du commerce de détail en termes de fiabilité.
Et il faut donner le crédit de cette feuille de route. Toutes ces stratégies d'optimisation émergent du cadre d'audit développé par Freightcom. C'est une plateforme tout en un spécialisée pour aider les PME en Amérique du Nord à naviguer dans ce champ de mine.
Un outil puissant.
il gère la complexité des envois par messagerie de petits colis jusqu'au chargement partiel LTL. Et leur modèle fonctionne, justement, en offrant 7 technologies d'automatisation et ses tarifs réduits en temps réel sans imposer de frais mensuels, ce qui résout le problème du pouvoir d'achat qu'on vient de décortiquer de long en large.
C'est la preuve qu'en centralisant ces données et en s'appuyant sur des partenaires qui agrègent les volumes, n'importe quelle petite entreprise peut faire de l'ombre au plus grand en matière de sophistication logistique.
Absolument. Ce qui m'amène à une dernière réflexion, un peu provocatrice, pour les gens qui nous écoutent en gérant une entreprise ou un département.
Je t'écoute.
Si un exercice analytique d'à peine 15 minutes sur une habitude aussi mondaine et quotidienne que l'expédition d'une boîte peut révéler des gouffres financiers aussi immenses...
Et exposer la fragilité de la réputation de votre marque, oui.
Quelles autres opérations internes, que vous considérez comme de la simple routine ennuyeuse, sont en train de drainer silencieusement vos ressources en ce moment même? C'est le genre de question qui empêche de dormir, mais qui, une fois résolue, change la trajectoire d'une entreprise.
Ah, le confort de la routine est souvent le plus grand ennemi de la rentabilité. Il suffit parfois d'oser soulever le capot.
C'est une super belle image pour terminer. Merci d'avoir exploré ces mécaniques invisibles avec nous.
Ça fait plaisir. À la prochaine!